Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Les États-Unis ont publiquement accusé hier la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin et des traitements contre le coronavirus. Pékin a pour sa part dénoncé des rumeurs et des calomnies. L'OMS a quant à elle averti que le virus pourrait ne jamais disparaître et pourrait devenir l'un de ceux avec lesquels l'humanité doit apprendre à vivre. Des pays ont commencé à lever progressivement les restrictions, tentant de trouver le difficile équilibre entre les mesures visant à enrayer la propagation du COVID-19 et les décisions propres à relancer leurs économies et à normaliser la vie des citoyens. La pandémie a fait au moins 294 119 morts, 294 119 morts pour plus de 4 305 340 cas dans 196 pays et territoires depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan de l'AFP mercredi. Aux États-Unis, pays le plus touché, on compte plus de 84 000 morts pour près de 1,39 million de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 33 186 morts, l'Italie, l'Espagne et la France. Ici à Washington, la capitale fédérale, le confinement est prolongé jusqu'au 8 juin, alors que des parties de la Virginie et du Maryland voisins rouvriront graduellement dès vendredi. Et dans le Wisconsin, la Cour suprême de cet État a annulé, à la suite d'une requête de parlementaires républicains, la décision de l'administration démocrate de prolonger le confinement. En Guinée, pays musulman à plus de 80%, des mosquées fermées depuis fin mars pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus ont été rouvertes de force mercredi, mais sans violence, par des fidèles musulmans, selon l'AFP. Il y a en Guinée 2372 cas confirmés et 14 décès en milieu hospitalier, mais la télévision d'État a annoncé mercredi soir que 9 autres personnes étaient mortes de la maladie en dehors des hôpitaux selon des tests effectués après leur décès. Au Sénégal, pays musulman à plus de 90%, l'Église catholique a décidé hier que les prières collectives resteraient suspendues jusqu'à nouvel ordre à cause du COVID-19, malgré la récente décision du président Macky Sall de rouvrir les lieux de culte. Dans les commentaires, la pression religieuse a été évoquée avec les nécessités économiques comme l'une des raisons de l'allègement des restrictions d'activité annoncées lundi par le président Sall. Le Sénégal a officiellement déclaré 2105 cas de contamination et 22 décès. En République démocratique du Congo, Jérôme Mounyangi, un enseignant-chercheur congolais qui s'était réfugié en France l'an dernier, a annoncé mercredi être rentré à Kinshasa à l'invitation des autorités pour participer à la lutte contre le coronavirus avec des recherches sur un traitement à base de la plante Artemisia. Il a été reçu mardi soir par le président Félix Tshisekedi. Au Burkina Faso, 12 personnes soupçonnées de terrorisme ont été retrouvées mortes dans leur cellule à la gendarmerie de Tanwalbougou, dans l'est du pays. Selon des sources sécuritaires, la piste d'une asphyxie sévère pourrait expliquer leur décès. Des sources indépendantes ont-elles indiqué ne pas exclure des bavures, affirmant que la majorité des détenus étaient de l'ethnie peul, régulièrement accusés de complicité avec les groupes djihadistes. Afghanistan, les talibans ont déclaré hier être prêts à combattre les forces afghanes après l'ordre donné par le président Ashraf Ghani de reprendre l'offensive contre les insurgés à la suite de 2 attaques meurtrières qui, mardi, ont encore mis à mal le fragile processus de paix. Pour revenir sur le coronavirus et autres éléments inquiétants, une étude montre que le coronavirus pourrait bien se transmettre non seulement par la toux ou l'éternuement, mais même par la parole. La suite de nos informations. Au Mali, de nouveaux heurts ont secoué hier Kayes, la grande ville de l'Ouest. Les violences ont fait 3 morts depuis lundi, dont un jeune tué par un policier. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le maire Adama Guindo, des jeunes en colère ont incendié un bâtiment administratif et brûlé tous les documents et les archives. Un commissariat et des postes de police ont été saccagés mardi, selon un communiqué du gouvernement. Les autorités expriment leur compassion envers les 3 victimes, a dit le président Ibrahim Boubacar Keïta à la télévision publique mardi. Il a assuré que le policier fautif serait jugé. Une délégation ministérielle s'est rendue à Kayes. Les manifestants veulent qu'il y ait justice parce qu'il y a eu trop d'injustices dans cette ville, trop de bavures de la police, a dit Sirayu Tamboura, oncle du jeune abattu par le policier. La ville est en proie depuis plusieurs jours à la contestation des résultats définitifs des dernières législatives et contre le couvre-feu pendant le Ramadan pour contenir le Covid-19. Les tensions se sont aggravées lundi soir après qu'un policier, qui n'était pas en service selon les autorités, a abattu un jeune qui s'amusait avec des proches en moto en banlieue de Kayes.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a nommé l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, le professeur Ibrahim Gambari, son nouveau chef de cabinet. Il remplace Abba Kyari, décédé le mois dernier du Covid-19. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Il a fallu près d'un mois au président Muhammadu Buhari pour trouver un remplaçant pour son défunt chef de cabinet Abba Kyari. Ce remplaçant, Ibrahim Gambari, âgé de 75 ans, a déjà travaillé pour le président Buhari comme ministre des Affaires étrangères dans les années 80. Ibrahim Gambari a commencé sa carrière d'enseignant à New York, puis a travaillé sous la direction des 4 secrétaires généraux des Nations Unies. Il revient pour servir Buhari après avoir travaillé pour l'ONU sur le dossier de l'apartheid en Afrique du Sud et les conflits au Darfour. Sa nomination intervient alors que la santé du président Buhari est l'objet de toutes les supputations. M. Buhari a déjà été hospitalisé plusieurs fois au Royaume-Uni et son ex-directeur de cabinet Abba Kyari est mort du coronavirus.
Maurice affirme ne plus compter aucun cas actif de coronavirus et n'avoir recensé aucun nouveau cas depuis 17 jours. L'archipel de l'océan Indien a enregistré 332 cas et 10 décès. Nathalie Barge.
Louant la coopération de la population, le ministre de la Santé, Kalesh Jakutpal, a toutefois déclaré qu'il fallait rester vigilant. Certaines activités vont reprendre à partir du 15 mai, mais le confinement a été prolongé jusqu'au 1er juin. Les rassemblements et l'accès aux plages restent interdits. Le gouvernement prépare 2 textes de loi sur les conditions du déconfinement. Les syndicats reprochent à ces textes d'attenter aux droits des travailleurs et aux libertés individuelles. Parmi les changements envisagés figure la possibilité de licencier un employé avec un très court préavis et un seul mois de salaire à titre d'indemnité et la possibilité pour la police d'entrer dans la maison d'un particulier sans mandat.
La Minute Éco, Manik Talani.
En RDC, les organisations anticorruption dénoncent le contrat passé entre Kinshasa et la société belge Semlex Europe qui fabrique les passeports biométriques. Semlex fait l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles depuis 3 ans sur des soupçons de fraude. Les Congolais se sont constitués partie civile. Ils estiment qu'à 185 $, leur passeport est parmi les plus chers au monde. En plus, selon les ONG, 60 $ de ce montant sont réservés à une société écran dénommée RIPS qui pourrait avoir encaissé plus de 36 millions de dollars depuis 2015. Semlex réfute toutes les accusations. L'Égypte a reçu 2,77 milliards de dollars de financement d'urgence du FMI, a rapporté son agence de presse officielle. Le FMI avait approuvé lundi les fonds dans le but d'aider l'Égypte à lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus qui a stoppé le tourisme et déclenché une fuite des capitaux. Pour terminer, privés de petits boulots ou sans accès aux programmes d'aide débloqués par l'État pour les plus vulnérables, les migrants de passage et immigrants subsahariens installés au Maroc peinent à survivre depuis le début du Covid-19 malgré des élans de solidarité. Au moins 20 000 d'entre eux sont en situation d'urgence humanitaire, selon Mehdi Alioua, du groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants. La majorité de ces migrants vit au jour le jour et travaille dans le secteur informel, frappé de plein fouet par la pandémie.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Fédération congolaise de football a rendu le verdict concernant le championnat de la RDC. Le tout-puissant Mazembe a été sacré champion et sera en Ligue des champions avec son dauphin l'AS Vita Club, Maniema Union et le DC Moto Mapembe, respectivement 3e et 4e joueront la Coupe de la Confédération. Bukavu Dawa et Niouki sont relégués en D2 au profit de la jeunesse sportive de Kinshasa et l'étoile jaune de Lubumbashi, tous deux promus en D1. Toujours en République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe apporte un démenti aux rumeurs faisant état d'une volonté des Corbeaux de recruter l'ancien international camerounais Jean de Makoun. Le tout-puissant Mazembe tient à apporter un démenti formel au sujet d'éventuels contacts ou d'une signature avec l'ancien international camerounais Jean de Makoun. Le club regrette d'une façon générale la publication d'informations erronées et non vérifiées auprès de son service de communication, a écrit le tout-puissant Mazembe dans un communiqué. Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Lille ou encore Aston Villa, le nom de Jean de Makoun avait été cité avec insistance du côté du club louchois. Et puis, Abdallah Ndour va devoir se trouver un autre club. Le Racing Club de Strasbourg s'est séparé de l'international sénégalais, tout comme de Benjamin Cornier et Jérémy Grimm. Abdallah Ndour a été désigné révélation en Ligue 2 française lors de la saison 2016-2017, mais il a eu du mal à confirmer son potentiel ces deux dernières saisons. Par contre, la Gioxer a prolongé le contrat de Birama Touré pour 2 années supplémentaires, plus une en option. Le Malien est arrivé à l'AGIA en janvier 2017 pour un prêt. En Italie, l'Assemblée générale de la Serie A a annoncé qu'elle souhaite reprendre le championnat le 13 juin. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, a donné son feu vert à une reprise des entraînements collectifs le 18 mai. Les séances individuelles ont repris le 4 mai. Le protocole de reprise oblige les clubs à mettre tous leurs effectifs en quarantaine pour 15 jours ainsi que le staff. Dès l'apparition d'un cas positif, les clubs du championnat d'Italie ont déjà plusieurs fois assuré vouloir finir la saison et ont voté en ce sens à l'unanimité le 21 avril. Mais c'est la première fois qu'une date de reprise de la compétition est officiellement évoquée.
Chers auditeurs et auditrices, c'est Natou Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires, je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Rahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le COVID-19 donne un coup d'arrêt au sport. Avec des championnats suspendus, des compétitions internationales reportées ou annulées, des revenus en baisse, le monde du sport est dans la tourmente. Comment les acteurs du milieu sportif vivent-ils cette situation? Comment peut-on espérer un retour à la normale dans les compétitions sportives? La Coupe d'Afrique des Nations 2021 est-elle menacée? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ce jeudi 14 mai 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, les autorités lèvent progressivement les mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19. Après l'annonce de la réouverture prochaine des écoles, les lieux de culte sont désormais ouverts et le couvre-feu nocturne levé à Niamey. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le gouvernement, sur proposition des chefs religieux, après consultation du comité d'experts COVID-19 et au vu de la tendance favorable de l'évolution de la maladie à COVID-19, décide de la réouverture des lieux de culte.
Chez beaucoup de fidèles musulmans, cette annonce de la réouverture des mosquées est comme une délivrance.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Les gens étaient coincés. Comment nous allons faire? Wallahi, nous avons évité la catastrophe. Donc les gens du Niger vont s'adresser sincèrement, n'est-ce pas, à Dieu et lui demander de nous épargner de cette pandémie.
Ce mercredi matin, les autorités municipales de Niamey ont lancé une campagne de désinfection des principaux lieux de culte de la capitale. Mokhtar Mahmoudou est le président de la délégation spéciale de Niamey.
Nous allons commencer par la grande mosquée, mais nous avons aussi organisé cette opération sous forme de 5 brigades dans les 5 arrondissements. Nous avons déjà établi la liste des grandes mosquées, mais nous avons aussi d'autres petites mosquées dont les prières se tiennent, où il y a des regroupements humains importants. Au-delà de la désinfection, nous allons mettre en tout cas des dispositifs de lavage de mains, des produits. Le traitement que nous allons faire ne concerne pas seulement les mosquées, ça concerne aussi les églises.
Plus de couvre-feu nocturne également à Niamey à compter de ce 13 mai. Pour prendre toutes ces mesures, le gouvernement consulte régulièrement le comité d'experts scientifiques mis en place dans le cadre de la poste contre la COVID-19. Professeur Mahmoudou Seydou, recteur de l'université de Niamey, président du dit comité.
On est dans la courbe descendante, dans la phase descendante de la courbe, mais le risque est là permanent de rebond. Donc il faut consolider les acquis, c'est-à-dire renforcer les fameuses mesures, là, le port du masque, le lavage régulier des mains, et la distanciation physique, c'est-à-dire un mètre au moins entre deux personnes. Alors, il y a bien sûr certaines conjonctions de circonstances qui font que une région particulière, notamment Zinder, a quelques cas un peu anormalement plus élevés du fait de la proximité avec un voisin qui a des cas très importants. Et donc, sur lesquels il ne faut pas lâcher prise.
Depuis le 19 mars, près de 900 personnes sont testées positives au virus. Une cinquantaine de décès a été enregistré. Le nombre de guérisons est quant à lui de 648 au 12 mai. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Nigeria, ces dernières semaines, les médias ont fait cas d'une forte augmentation du nombre de décès inexpliqués. Ces morts mystérieuses s'expliquent en partie par le coronavirus dans le nord du pays, majoritairement musulman. À Kano, la seconde ville du pays avec près de 10 millions d'habitants, les mesures de distanciation sociale rendent la vie encore plus difficile. Bagassi Koura a joint sur place à Kano notre confrère Adam Aboubakar Gouarzo.
Le gouvernement fédéral a envoyé des interventions, donc maintenant la situation se contrôle. C'est juste à Bauchi où il y a encore des morts, plus de 150 morts, à Bauchi Azare.
Est-ce que la situation du COVID-19 dans la région est pire qu'ailleurs au Nigeria?
Oui, mais tu sais, c'est pas facile. Toujours, il y a d'augmentation du nombre. Mais de toute façon, avec les précautions que l'État a envisagées, donc maintenant, ça va maintenant.
Alors, on avait parlé de morts mystérieuses il y a quelques semaines, plus de 600 morts. Qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? Quelle était la raison?
Oui, mais la raison, selon le docteur Sani Kozo, qui est l'envoyé spécial du gouvernement fédéral, il avait souligné que d'autres, c'est Corona, et puis d'autres, c'est des maladies, souvent, c'est des maladies, c'est, d'autres sont machos, d'autres sont diabétiques, d'autres sont, ont des tensions, etc. Donc, ce n'est pas tous les 600 morts qui sont victimes du Corona.
Est-ce que les mesures de distanciation sociale sont toujours en place dans la région?
Oui, les mesures sont prises, mais il faut savoir aussi les gens sont en train de pleurer parce que l'État a fait de son mieux, mais de toute façon, l'État aussi doit augmenter son effort parce que les gens se disent ils ont faim, ils sont obligés de sortir pour chercher quoi manger. Chaque semaine, on a seulement une seule journée que nous sortons. Donc, mais en sortant, les gens ne respectent pas la distance aussi, vous voyez. Donc, il faut aussi revoir ces mesures aussi.
Est-ce que les mosquées sont ouvertes en ce moment de Ramadan?
Non, jusqu'à présent, les mosquées ne sont pas ouvertes. Les mosquées et les églises sont fermées.
Est-ce que la communauté musulmane se plaint de cette situation?
Oui, mais certains se plaignent, mais de toute façon, ils se sont compris comme ils ont une association. Ils se sont compris que ce n'est pas la faute de l'État. Donc, c'est la nature qui le permet. Donc, ils sont obligés aussi d'adhérer. Donc, je ne pense pas s'il y a des problèmes pour ça aussi.
Notre confrère Adam, journaliste à Kano, dans le nord du Nigeria. Au Cameroun, à cause du Covid-19, le tourisme et l'hôtellerie sont durement affectés dans la cité balnéaire de Kribi, dans le sud du pays. Les hôtels, les plages de cette principale destination touristique subissent une forte baisse de la fréquentation. L'économie locale subit les mêmes dégâts depuis mars dernier. Reportage de notre correspondant Emmanuel Julentap.
Les vagues de la mer échouent sur les terrasses des hôtels à Kribi. Le spectacle est d'une impressionnante beauté, mais la vie ne suit plus son cours normal en ces lieux depuis la survenue des premiers cas de Covid-19 au Cameroun. La ville touristique connaît une baisse de fréquentation record des visiteurs. Les jours ouvrables, tout comme le week-end, semblent pareils. Un réceptionniste d'un hôtel 3 étoiles se confie à VOA Afrique sous anonymat.
On vient, on passe la journée, on observe la mer, on s'attend à ce qu'un client ou deux, ils ont encore peur pour manger, boire, peut-être le week-end lorsqu'ils viennent profiter de la plage.
Kribi, avant le Covid-19, a prêté des grandes rencontres, des séminaires de formation, des colloques, des ateliers. Les hôtels faisaient le plein à l'occasion, augmentant par ricochet l'affluence sur les plages. À cela s'ajoutaient de nombreux touristes. Mais depuis le 18 mars dernier, le pays a fermé ses frontières et interdit les regroupements à plus de 50 personnes. Des restrictions qui ont fait plomber le chiffre d'affaires de Julienne Camonier, directrice générale d'une agence de voyage dont la ville de Kribi était l'un des marchés florissants.
Nous ne pouvons pas vendre les chambres d'hôtel, nous ne pouvons pas faire des locations de voitures, on ne peut même pas organiser de grandes rencontres. Nous avons mis tout le personnel en chômage technique parce qu'il fallait bien.
Une vingtaine d'hôtels, plusieurs restaurants ont fermé à Kribi, faute de clients, avant de réouvrir il y a deux semaines. La plupart ont opté pour des prix promotionnels qui n'attirent toujours pas grand monde. La situation est similaire au débarcadère. Karine et Djidji, ils vendent du poisson.
Les clients viennent un peu, mais on prend quand même les précautions. Dès que les clients arrivent, ils se lavent d'abord des mains et on leur demande de mettre leur cache-nez. La situation du débarcadère n'est pas encore bien stable.
Le syndicat patronal des industries du tourisme et de l'hôtellerie ne cache plus son inquiétude sur l'impact du Covid-19 dans ce secteur d'activité. Émile Ngoulou, syndicaliste.
Nous avons eu une chute drastique de la fréquentation qui est de l'ordre de 80 à 90%. Le Covid-19 est un niveau de sinistre que nous n'avons jamais imaginé dans notre profession. C'est une profession qui risque d'être compromise et disparaître à plus d'un endroit. Des activités comme les nôtres sont des activités très coûteuses à l'investissement sur lesquelles on a des crédits.
Le 30 avril dernier, le président de la République a décidé de l'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour le reste de l'exercice 2020. Par ailleurs, le Cameroun va, à compter du 15 juin, accueillir à nouveau sur son territoire des vols commerciaux de la compagnie Air France. Mais le président du groupement interpatronal, le JICAM, a exhorté le gouvernement à aller plus loin et plus vite dans la mise en place des mesures complémentaires propres à restaurer la santé des entreprises. Yaoundé, Emmanuel Julentap, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Les réfugiés récemment arrivés aux États-Unis ont du mal à s'installer dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus. La décision du gouvernement fédéral de suspendre certaines aides financières tend également à corser la situation, Jacques Aristide.
Le réfugié afghan Mahmoud Amiri est arrivé en Amérique il y a plus d'un mois. Ses enfants ont hâte d'aller à l'école pour la première fois dans ce pays, alors que la famille attend également de pouvoir enfin se rendre à la mosquée pour rencontrer d'autres musulmans. Mahmoud Amiri est tout aussi impatient de trouver un emploi. Seul gros bémol, personne ne sait pour l'heure le temps que cela prendra dans une économie en crise.
Tout est fermé. Les services communautaires catholiques m'ont dit que cette situation pourrait durer 3-4 mois. Il m'est donc difficile de trouver un emploi pour le moment.
Les restrictions liées au coronavirus ont affecté les familles de réfugiés comme les Américains en général. Perte d'emploi, problème de garde d'enfants, mais beaucoup sont aussi confrontés au problème de la langue, sans pouvoir non plus avoir l'aide immédiate des amis ou des proches. Les Amiri sont arrivés à Salt Lake City le 24 mars dernier, environ une semaine après que les États ont commencé à fermer les écoles et les entreprises pour empêcher la propagation du coronavirus. Après avoir attendu 3 ans pour le visa, ils ont ignoré les avertissements à Kaboul, selon lesquels se rendre aux États-Unis pendant la pandémie serait dangereux.
Au moment où nous avons obtenu notre visa, le coronavirus s'est propagé partout dans le monde. La situation était affreuse. Mais de Kaboul, nous nous sommes rendus à Dubaï et de là aux États-Unis.
Les parents et leurs 4 enfants étaient les seuls passagers à bord du dernier vol de Seattle à Salt Lake City. Pour eux, il fallait prendre le risque. Mahmoud Amiri travaillait pour l'armée américaine en Afghanistan et craignait l'enlèvement de sa famille par les talibans. Oblige, les organisations caritatives aident désormais les réfugiés à avoir recours aux prestations de chômage. Aden Batar, du service communautaire catholique de l'Utah.
Nous essayons de les aider à obtenir leurs documents comme la carte d'identité de Utah et tous les autres services de soutien que nous offrons à ces réfugiés. Nous faisons tout à distance en ce moment. Comment utiliser le transport en commun, comment se rendre chez le médecin, comment aller au marché, toutes ces choses, vous savez que nous tentons maintenant de faire virtuellement.
Ces ONG sont également contraintes d'utiliser leurs fonds d'urgence pour aider les réfugiés à payer le loyer et à s'acheter de la nourriture après la suspension du soutien financier du gouvernement fédéral.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Oui, le coronavirus est là, comme il va te l'en
c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la Maison du Monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.